Bonjour, je suis Julie, la maman de deux petites filles de 3 et 7 ans, j'ai 40 ans. À la maison, pas de tabou sur les règles. La porte des toilettes est d'ailleurs souvent ouverte et donc les filles qui aiment partager ces moments d'intimité de leurs parents sont souvent confrontées, parfois en tout cas, à la présence de sang dans ma serviette hygiénique ou dans ma culotte menstruelle. Et on en parle ouvertement. Je leur explique que ce sang n'est pas plus sale que celui qui peut couler d'un genou lorsqu'elle tombe. Je voulais à tout prix éviter le traumatisme que ma maman m'a toujours raconté qu'elle avait vécu à ses premières règles, car elle ne savait absolument pas ce qui lui arrivait. Sa mère ne lui avait pas expliqué et elle a cru mourir. Du coup, je voudrais absolument garder l'esprit de mes filles ouvert à ce sujet-là et leur expliquer que c'est totalement naturel et pas du tout sale et que ça leur arrivera à elles aussi.
Les menstruations, ou plus communément, les règles. Voilà un sujet sur lequel on peut passer des heures à discuter entre copines, avec nos mamans, nos filles, nos conjoints, nos médecins. On pourrait penser qu'en 2023, on en parle facilement, librement, sans honte ni barrière. Pas si sûr que ça. Certes, le monde change et évolue dans le bon sens, car je pense que nos filles n'entendront plus ces petites phrases idiotes du style « prépare pas la mayonnaise, si t'as tes règles, elle va pas prendre ». Mais pas certaines non plus qu'elles se prennent pas la réflexion « Oh, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'es mal lunée, t'as tes règles ou quoi ?» Parce que ça, oui, on l'entend encore. Alors posons-nous et voyons voir ce qui a vraiment changé ou pas, pour nous et pour nos filles. Cycle, protection, SPM, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se dit et se fait autour de nos règles, parce que nous, les mamans, on est peut-être un peu dépassés sur le sujet et il faut qu'on se remette à la page. Nous retrouvons avec plaisir aujourd'hui Anna Roy, sage-femme qu'on ne présente plus, chroniqueuse à la maison des maternelles, autrice et aussi créatrice du podcast Sage Meuf. On va papoter de nos règles ensemble. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents galère sa mère qui va vous expliquer que vos règles, c'est pas la galère. Bonjour Anna Roy.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue à nouveau chez nous, ça nous fait plaisir de vous retrouver.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Alors je disais, les temps ont changé, les tabous levés. Parle-t-on vraiment des règles sans barrière en 2023 selon vous ?
Non, bien sûr que non. pas encore. Je crois qu'il y a de nets progrès, mais enfin je vois toujours les jeunes filles et même nous, les femmes, se passer les tampons de manière extrêmement discrète. Moi, je vois toujours des amies me passer des tampons comme si elles me passaient un kilo de cocaïne. Donc oui, les choses évoluent, mais voilà, c'est pas encore gagné.
Ouais. Si aujourd'hui on parle quand même de la fin de la honte, on le dit, la fin de la honte et du silence autour de ce sujet, pour autant, comment vous expliquez que à la télé, les pubs, on voit encore toujours ce fameux liquide bleu ? C'est qu'on a vraiment encore du chemin à faire ?
Oui, il y a du chemin à faire et on comprend aisément pourquoi. C'est un sujet qui touche à l'intime, au sexe, enfin, à la reproduction, à la sexualité. Enfin, donc c'est un sujet comme l'accouchement, comme d'autres sujets, qui restent encore tabous, mais qui le sont nettement moins. Et c'est vrai que le sang fait peur, continue de faire peur.
Ouais.
Parce que c'est le sang, c'est voilà, ça fait peur. Mais il ne faut pas que ça fasse peur, parce que franchement, il n'y a pas de quoi...
Donc on met du bleu, ça fait moins peur.
Voilà, c'est ça, mais c'est un ridicule achevé, et puis ça participe à la tabouisation du sujet. Donc c'est vrai que arrêtons d'avoir peur du sang. Enfin, évidemment, je suis sage-femme, alors évidemment, j'ai pas peur du sang, mais bon, ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Alors, on parle énormément en ce moment de... on entend SPM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est SPM ?
Alors, SPM, c'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, c'est un syndrome qui associe plusieurs types de symptômes, qui peuvent être des symptômes à la fois physiques et mentaux, qui surviennent en général quelques jours avant l'arrivée des règles, mais qui, chez certaines femmes, pas de bol, peut survenir dès le lendemain quasiment de l'ovulation et peuvent durer, du coup, une dizaine de jours.
Ah ouais.
Et il y a des degrés de sévérité extrêmement variables selon les femmes. Il y en a vraiment qui présentent carrément un état dépressif ou un état anxieux sévère. Il y en a d'autres qui vont se gonfler, il y en a d'autres qui vont avoir mal au ventre, il y en a d'autres qui vont... Voilà, toutes sortes de symptômes, parfois très pénibles.
Bon, les règles ont toujours existé depuis la nuit des temps. Pourquoi on n'en parle que maintenant de ce fameux SPM et qu'avant, on disait rien du tout ?
Parce qu'avant, c'est-à-dire que la parole des femmes, souvent, on avait tendance à dire aux femmes « Oui, oui, d'accord, madame. Oui, oui. Ah, vous êtes un peu triste à vos règles. Ah oui, d'accord, mais c'est normal, madame, vous êtes une femme. » Et puis quand elles avaient mal pendant leurs règles, on disait « Bah oui, bah madame, les règles, ça fait mal. » Donc voilà, il y avait toujours une sorte de « Oh, ce que racontent les bonnes femmes, c'est des trucs de bonnes femmes, quoi. » Donc, il y avait toujours une décrédibilisation de la parole. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu autant de manque de diagnostic de l'endométriose. On en parlera peut-être après, mais parce qu'en disant « Bah oui, madame, les règles, ça fait mal. Genre, vous le saviez pas? Alors qu'en fait, non, c'est pas normal du tout. Mais donc voilà. Et donc ce syndrome prémenstruel était victime de ça aussi. C'est ah bah t'es de mauvaise humeur 2-3 jours avant. Bah oui, bah ça va passer. Tu vas avoir tes règles. Voilà.
Quels sont justement bah, aujourd'hui les médecines ou les médicaments qui fonctionnent contre ces fameuses douleurs? Parce que les douleurs, bah, on les a, elles sont bien là. Hein. On fait quoi pour se sentir mieux? Est-ce qu'on a évolué là-dessus?
Pour le syndrome prémenstruel, alors le problème, c'est que notre recherche scientifique, bah, c'est pas ouf. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je peux pas vous dire, ah super, il y a un truc génial qui marche à tous les coups. Alors bien sûr, il y a l'histoire de l'activité physique, du sommeil, de l'alimentation. Il peut y avoir des traitements médicamenteux, type pilules, etc. Mais c'est pas forcément la solution. Il peut y avoir des psychotropes, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, vous souffrez d'un SPM qui est assez fort, vous allez voir une sage-femme, un médecin, une sage-femme ou un médecin qui est prêt à écouter et qui aime écouter, vous dites, voilà, j'en peux plus, j'ai ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah, voilà, je vous ai dit à peu près, il y a aussi de l'huile de nagre, il peut y avoir pas mal de choses, mais c'est un peu en fonction des symptômes aussi et du degré de sévérité. À chaque patient, sa solution.
Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, si on a des douleurs, on va dire, ordinaires, classiques, entre guillemets, on n'est pas dans ce fameux syndrome prémenstruel, mais bon, on a ses règles et on a quand même ses douleurs. Qu'est-ce qu'on préconise aujourd'hui? On reste toujours sur le paracétamol ou est-ce que ça a évolué?
Les douleurs pendant les règles, en fait, avoir ces règles, ça ne doit pas faire mal. C'est ça le postulat de base. On a un muscle qui se contracte, qui s'appelle l'utérus. Quand vous contractez votre biceps, ça vous fait pas mal. Jusqu'à preuve du contraire, donc il n'y a aucune raison que ça vous fasse mal. Si ça vous fait mal, mais que c'est extrêmement fugace, ah, j'ai une petite douleur, ah, c'est une petite crampe, oh, elle passe. Oh, ok, très bien. Bon, c'est pas très agréable. On met une petite bouillotte, on fait un peu plus de sport, on mange telle ou telle chose et hop, ça s'améliore très vite. C'est encore ok pour moi. Mais par contre, si vous avez mal et que ça vous empêche de mener à bien vos activités de la vie quotidienne, ça, vous avez du mal à aller en cours, du mal à aller bosser, du mal à faire du sport, alors vous aviez prévu une séance de sport, que vous êtes obligé de prendre des antalgiques et tout ça, là, je me dis, oh, hé, c'est pas normal, ça, il faut consulter absolument. Faut faire le point avec une sage-femme ou un médecin et on voit après. C'est pas forcément le signe d'une pathologie du tout. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez mal? On va essayer de chercher. En tout cas, parfois, on le sait, il y a 10% des femmes qui sont atteintes d'une maladie qui est vraiment pénible, qui s'appelle l'endométriose, et c'est pour ça qu'on ne doit pas considérer que la douleur de règles est quelque chose de normal. C'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Je fais partie de ces femmes qui n'ont pas mal pendant leurs règles. C'est ça la normalité.
C'est fou, parce qu'en fait, on nous a tellement appris, à souffrir en silence, à se dire ce que vous disiez. Ben, t'as tes règles, tu souffres, et puis point barre. Donc, on peut vraiment passer à côté, justement, de l'endométriose.
Totalement. Il faut passer du postulat de départ. C'est normal d'avoir mal parce que t'as tes règles, à ce n'est pas normal d'avoir mal alors que t'as tes règles. Il faut inverser le postulat de départ.
Sacré changement de mentalité. Hein.
Ah oui, puis alors là, ça, à mon avis, il faudra une ou deux générations avant que ça se passe.
L'Espagne vient d'adopter ce projet de loi là concernant le congé menstruel. On en est où en France justement de ce sujet-là?
Je ne crois pas que ce soit prévu au vote, il ne me semble pas. Il faudrait regarder les textes parlementaires, mais je ne crois pas que ce soit prévu au vote. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui le prévoient déjà. Par exemple, la maison de production de la maison des maternelles l'a déjà mis en place. Donc voyez, ça existe.
Ouais, bon.
Ouais, mais c'est déjà pas mal. Chaque pas est une victoire.
Oui, vous avez raison. Est-ce que les sages-femmes militent aussi pour ça ou pas?
Ça dépend. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'une femme puisse arrêter de travailler, bien sûr, si elle souffre le martyr pendant ses règles. C'est d'ailleurs qu'on ne contraint pas quelqu'un à aller au travail alors qu'il a une gastro. Il se trouve que les douleurs des règles peuvent être de cette nature-là, c'est-à-dire aussi invalidantes qu'une gastro-entérite. Donc il est tout à fait normal que les femmes n'aillent pas travailler quand elles sont dans un état qui ne leur permette pas, tout simplement.
On espère que ça va arriver jusqu'à chez nous. C'est quand même l'Espagne, ses voisins. On croise les doigts, on espère. Quels sont les types de protections qui s'offrent à nous aujourd'hui? Parce que, perso, je suis une maman, je me sens un peu has-been. Moi, je suis la génération tampon. Je suis la génération où, on met pas trop de serviettes. Puis là, j'ai compris que c'était pas trop le top, finalement, le tampon, qu'il valait mieux les serviettes. Aujourd'hui, c'est les culottes menstruelles, c'est les cups, c'est les maillots de bain. On parle aussi de flux instinctif libre. Moi, je suis complètement paumée. Est-ce que vous pouvez, pour les mamans has-been comme moi, nous faire un tour d'horizon des types de protection?
Alors, c'est génial parce qu'il y a plein de choses. Et c'est pas parce que ça vous convient à vous que ça va convenir à votre copine, votre voisine, votre fille, votre sœur ou votre tante. J'en sais rien. Donc, il faut vraiment présenter tout ce qui existe et la personne fait son choix. Et la personne a même le droit de changer d'avis. Moi, je sais qu'en tant que selon la phase du cycle, je vais utiliser tel ou tel et même selon la journée, est-ce que c'est la nuit, le jour? Donc, il faut laisser la possibilité aux gens de faire leur choix et de les tester parce qu'il faut souvent tester. Vous avez bien sûr les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, elles sont soit jetables, soit lavables. Ça, on en trouve partout. Vous avez les tampons, dont je rappelle qu'il faut faire attention à la notice d'utilisation. C'est jamais plus de 6 heures. Donc si on n'est pas sûr de pouvoir le changer parce qu'on est sage-femme et qu'on est de garde, ou qu'on est lycéenne et qu'on ne pourra pas changer son tampon, eh ben il ne faut pas en mettre, ou il ne faut pas les garder pendant la nuit, par exemple, etc. etc. Il y a bien sûr les culottes menstruelles, hyper pratiques. Les cups, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces petits comme des coupes. Voilà.
Je veux bien que vous nous expliquiez. Alors, les cups, comment ça marche, une cup?
C'est vraiment comme un, comment on pourrait dire, un petit bol en silicone qu'on rentre à l'intérieur du vagin, qui va retenir le flux, et on le retire. Et il va falloir le laver, le stériliser éventuellement. Et on le replace. En fait, c'est comme une soucoupe, on pourrait dire, qui va retenir le flux d'arrivée.
J'ai vu les maillots de bain maintenant, les maillots de bain aussi, qui sont, je pense, comme les
exactement,
culottes.
Comme les culottes menstruelles, exactement.
Les culottes, donc ça, c'est donc en fait, on la met la journée, on la nettoie le soir, on la remet le lendemain, en fait.
Quand on aime bien ce mode-là, on essaye sur une, et puis si on trouve que c'est vraiment génial, ça me correspond hyper bien, le plus pratique, c'est quand même d'en acheter deux ou trois, ou même un peu plus pour avoir un roulement. Alors, ça paraît cher à l'achat, c'est vrai, mais en fait, c'est très, très vite amorti.
Quelle est la protection, le type de protection le plus écolo, selon vous?
Évidemment, c'est la culotte. On va vous dire que c'est... Moi, je suis pas non plus, je suis pas spécialiste du climat. Il faut pas me demander ça à moi. J'aurais tendance à dire que c'est évidemment les protections lavables, que ce soit les serviettes hygiéniques ou les culottes. Évidemment, le plus écolo reste le flux instinctif libre, puisque là, vous n'avez besoin de rien si ce n'est que de votre périnée.
Alors, parlez-nous justement de cette nouvelle tendance dont je n'avais absolument pas entendu parler.
Alors, l'idée, elle est très simple, c'est de retenir le flux de ses règles, en grande majorité par la tonicité de ses muscles périnéaux. Et quand on va faire pipi, on relâche ses muscles périnéaux, et en même temps qu'on fait pipi, le flux sanguin s'écoule. C'est aussi simple que ça.
Ça s'apprend ?
Oui, ça s'apprend. Alors, souvent, il y en a qui le font sans même s'en rendre compte. Il y a plein de femmes qui disent « moi, quand je vais aux toilettes, en fait, il y a un gros truc qui s'écoule. » Eh bien, c'est qu'en fait, elle fait du flux instinctif libre sans le savoir. On va juste renforcer avec un travail périnéal un peu plus fort, et ce sera parfait.
C'est pas mauvais de retenir comme
ça, justement. Non, parce que ça dépend si on va faire pipi, évidemment. De toute façon, vous ne pourrez pas retenir, mais on va quand même faire pipi régulièrement, en général, toutes les 4 à 6 heures, comme un tampon. Et alors, la nuit, je sais qu'il y a certaines femmes qui arrivent. Moi, par exemple, j'ai jamais réussi. Mais je sais qu'il y a certaines femmes qui arrivent. Il faut que ça amuse. Il n'est pas question de faire ça si ça vous amuse pas. Si ça vous amuse, essayez. Si ça vous amuse pas, on laisse tomber. Chacune son délire.
Oui, si c'est une contrainte, bien évidemment, on ne se lance pas
dedans.
Bien sûr,
comme les serviettes hygiéniques, la vape d'ailleurs. Il y en a que ça emmerde, et c'est très bien comme ça. Chacune fait ce qu'elle veut. On me dit, mais Anna, allez, dites-nous, c'est quoi votre préférence? Mais j'en ai aucune. Moi, je mets tampon, flux instinctif libre et culotte menstruelle. Voyez donc. Alors, j'en ai aucune, mais pour de vrai, j'en ai aucune.
Mais est-ce que malgré tout, ce fameux flux instinctif libre, faut pas quand même être une jeune fille ou alors faire une bonne rééducation du périnée après les enfants?
Oui, il faut avoir un périnée en pleine forme, mais moi, je vous assure, je le pratique, donc j'en suis le témoin vivant et j'ai plein de patients qui le pratiquent. Non, ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une bonne appréhension de ce périnée, il faut savoir bien le contracter, bien le relâcher. Mais ça, de toute façon, j'invite tout le monde à le faire, puisque c'est vraiment chouette d'avoir un périnée en pleine forme, c'est vraiment pratique.
Après, on parle donc de protection, alors même si là, on parle d'après-accouchement, après un accouchement, on se tape toujours les méga-couches culottes, on n'a pas trouvé mieux?
On peut mettre des culottes menstruelles, évidemment, mais le problème, c'est que les sages-femmes, on aime bien voir la couleur des saignements au départ, donc vous pouvez... on est en plein débat entre sages-femmes. Est-ce que tu crois que c'est vraiment important de voir la couleur ou pas, etc. C'est vrai que les culottes menstruelles sont souvent sombres, donc on voit pas la couleur. On voit pas s'il y a un peu de grisâtre, un peu de verdâtre, un peu de trucs bizarres. Puis on voit un peu moins la quantité de façon aisée. On a appris à calculer notre quantité dans notre tête avec les serviettes hygiéniques, donc c'est vrai que c'est un peu délicat pour nous, mais je pense qu'on va y venir. En tout cas, une fois que les femmes sont rentrées chez elles, bien sûr, et qu'elles sont plus sous surveillance médicale, il n'y a aucun problème, elles utilisent des culottes menstruelles si elles en ont envie.
Ah ok, super, d'accord, on n'a plus besoin des grosses couches culottes à la maison.
Tout.
Tout ce qui tourne autour de nos règles, ça fait beaucoup parler, ce que je disais... Faire l'amour pendant ses règles, ça a toujours été un sujet méga tabou. Ça, je le cache pas. Et maintenant, j'ai l'impression, on dirait qu'on parle pas que de ça, mais on en parle. J'ai l'impression que ça devient une nouvelle tendance. Je me trompe ou c'est vrai?
Non, je pense que ça a toujours été. En fait, je pense que ça a toujours. Enfin, les femmes ont toujours fait ça, sauf que ça se disait pas, c'était la honte et ça restait dans l'intimité du couple. Mais en soi, je pense qu'il y a pas d'évolution des pratiques. Il y a une évolution du discours autour, mais il y a pas d'évolution des pratiques, me semble-t-il. En fait, le truc, c'est qu'il faut avoir envie et il faut aussi que le partenaire soit OK. Il s'agit pas non plus, il faut en avoir envie soi, mais il faut pas non plus prendre en traître la personne qui est en face. Et donc, en discutant en couple très simplement.
D'accord. Donc, c'est pas quelque chose, vous pensez que c'est pas quelque chose qui se pratique forcément plus aujourd'hui, mais c'est juste que la parole se
libère. Absolument. Je pense tout à fait.
Est-ce qu'en 2023, on parle justement différemment des règles aux jeunes filles, à nos filles, Est-ce que c'est vrai que les filles aujourd'hui, par exemple, veulent sentir ce qui se passe dans leur corps et que nous, notre génération, je prends la pilule, j'enchaîne les plaquettes pour pas avoir mes règles, ça, c'est plus du tout d'actualité pour ces jeunes filles.
Oui, moi, je pense que ça évolue, mais je vais vous dire un truc, ça. Je pense que ça avait déjà évolué dans ma génération. J'ai 36 ans. Moi, j'étais plus dans le tout pilule, tout tampon, on fait tout disparaître, ça n'existe pas déjà, je crois. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se détournent de la pilule. Je trouve que c'est intéressant, effectivement. En tout cas, pour certaines, c'est intéressant de voir à quoi ressemble un cycle. Là encore, une fois, c'est une question de personnalité. Et là encore, j'ai pas de préférence. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment fonctionne son cycle. Et voilà, moi, je trouve ça intéressant. Ça fait partie de notre fonctionnement normal. Et donc, prendre un médicament, les femmes qui me disent, bah, moi, je veux plus prendre de médicaments alors que je suis bien portante. Bah, je dis, bah oui, je vous comprends. On va vous accompagner autrement pour la contraception.
Et les jeunes femmes aujourd'hui, vous les voyez aborder leurs règles de quelle manière? Elles voient ça comme une contrainte ou pas?
Alors, il y a celles, bah, ça, le problème, c'est que ça dépend de comment elles sont vécues, ces règles. Mais entre une jeune femme qui est pliée de douleur et pour laquelle c'est un enfer qui va être mis sous traitement, etc., évidemment, cette femme, elle aura un vécu des règles qui est très mauvais. Et à l'inverse, il y a des femmes qui s'en fichent complètement et qui continuent leur vie comme si de rien n'était. Il n'y a pas une façon de vivre ces règles. Il y a autant de femmes que de façon de vivre les règles. Mais en tout cas, je trouve que c'est moins « Ah, il faut te faire disparaître. Ah, au secours. Ah là là. » Les jeunes femmes en parlent beaucoup plus facilement et simplement. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc sur mon livre qui s'appelle « Tout sur les règles », je trouve génial, c'est que c'est le livre qui est le plus piqué dans les bibliothèques scolaires. Et ça, je trouve que c'est un excellent signe. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on m'ait fait.
C'est clair.
Les documentalistes m'ont dit, c'est le livre qu'on pique le plus. Mais merveilleux, merveilleux. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il faut éduquer les garçons. Moi, je reste persuadée.
Eh ben, c'est ce que j'allais dire. C'est piqué que par les filles ou est-ce que c'est piqué aussi par les garçons? Parce qu'il faut les éduquer, les garçons. Comment c'est abordé aujourd'hui avec eux? Parce que ça aussi, les temps ont changé, non?
C'est très important de parler de ce sujet comme d'un sujet banal. Et donc, d'en l'évoquer, bien sûr, filles-garçons de façon complètement. Ni plus avec les filles, ni plus avec les garçons. Les règles, ça concerne la moitié de l'humanité pendant quand même une certaine période donnée. Il faut en parler. De façon très libre. Et bien sûr, moi, mes deux garçons ont lu mon bouquin, et je l'ai lu avec eux d'ailleurs, qui sont pourtant petits, 4 et 6 ans.
Ah ouais, si jeunes.
Bah, bien sûr, ils se demandaient qu'est-ce que c'est que ces couches qu'il y avait dans les toilettes. Ils comprenaient pas. Ils étaient là, mais c'est quoi ces couches qu'elle a? Et c'est quoi, des fois, ces traces de sang qu'on voit? Et c'était inquiet. Donc, je leur ai expliqué très simplement. Voilà. Je pense que c'est vraiment, maintenant qu'il y a des livres supports, des supports, c'est trop facile. On laisse traîner le bouquin. D'ailleurs, il y a beaucoup de garçons. Moi, je dis aux parents, laissez traîner mon bouquin dans les toilettes ou n'importe où, et à coup sûr, il sera lu. Vous êtes pas, si vous vous sentez pas capable d'aborder le sujet, ou parce que votre enfant vous envoie bouler, et ben vous laissez traîner les documents, rien, dans un endroit stratégique où il peut le lire peinard sans que vous voyez qu'il le lit, et puis voilà.
On se retrouve dans un moment où nous, on n'a pas été élevés de la même manière quand même, et on essaye d'éduquer différemment nos enfants, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les clés, le discours, parce que nous, on l'a pas reçu. Donc on sait pas tellement comment aborder le sujet finalement. Donc quand on sait pas, vous pensez qu'on délègue ou par rapport, soit par le bouquin, soit avec quelqu'un d'autre, et on ne l'aborde pas forcément le sujet?
Moi, je dis, il ne faut pas non plus forcer ou dire à l'enfant très simplement. Alors, s'il ne vous demande rien et que vous n'êtes vraiment pas à l'aise, n'hésitez pas à lui dire « Écoute, je ne sais pas comment t'en parler, je suis désolée. Tu vois, moi, je viens d'une génération où le sujet était un peu tabou. » La vérité, quoi.
Ouais.
C'était un peu tabou, tu vois, donc je suis vachement embêtée. Mais voilà, regarde, j'ai acheté 2 bouquins là, à la Fnac en passant. Bah, écoute, n'hésite pas, je te donne ça. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, sache aussi que tu as les sages-femmes et les médecins qui sont disponibles pour répondre à des questions et qui ne t'examineront pas. Je crois que c'est très important de dire aux jeunes filles en particulier que quand on va chez la sage-femme ou chez le médecin, on n'est pas forcément examiné. On a le droit d'y aller juste pour poser des questions. C'est quand même des endroits hyper safe.
Important.
Bien sûr, il faut se renseigner sur la qualité de la personne, du praticien en face. Mais en tout cas, c'est vraiment des endroits géniaux, parce que moi, je vois des jeunes femmes, je ne fais que répondre à des questions.
Oui, non, mais ça, c'est important. Je pense que toutes les jeunes filles pensent qu'il va forcément y avoir un examen gynécologique.
Absolument pas. On n'a aucune raison de faire un examen gynécologique pour une femme qui vient nous parler de ses règles. Aucune raison.
Il faut qu'elle l'entende. Et les papas, alors on en parle, les papas, parce qu'aujourd'hui, les papas aussi, ils peuvent être un peu dépassés. Il y a des papas qui se retrouvent aujourd'hui, donc avec cette nouvelle génération où c'est beaucoup quand même plus libre, où on se retrouve, ouais, papa, tu vas m'acheter mes tampons, tu vas m'acheter ma culotte menstruelle au supermarché, etc., sans aucune gêne. Mais les papas sont justement entre deux et ils ne savent pas trop comment réagir. Comment est-ce qu'on les met au parfum, là, nos mecs?
Alors déjà, parce que le niveau d'information, mais même des femmes, je dirais, de plus de 40 ans, alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais les femmes de plus de 40 ans souvent ont besoin d'une remise à niveau sur les règles, mais même des femmes un peu plus jeunes, en tout cas c'est souvent à cet âge-là qu'on a des enfants ados. Faut vraiment déjà se remettre à la page soi-même, c'est-à-dire aller se documenter sur les règles avant de raconter des carabistouilles. Et la même chose pour les pères. Enfin, les pères, alors eux, souvent, mais ils connaissent quand je dis rien.
Que dalle.
C'est, moi, je peux me tordre de rire quand je fais des petites interros surprises comme ça dans mon cabinet avec des gens que j'aime bien. Je me pisse dessus de rire tellement.
Ils sont à côté de la plaque.
Ils savent rien.
Ouais.
Voilà, donc en général, c'est ce que je dis. Mon bouquin, je leur dis, mais vous commencez par le lire d'abord. Ouais. Avant d'aller au fond, parce qu'en fait, souvent, les adultes ne connaissent pas grand-chose. Moi, il y a plein de femmes qui m'ont dit, mais en fait, j'ai appris plein de trucs, c'est la honte, mais j'ai appris plein de trucs dans votre bouquin.
Ouais. Et donc, alors, les papas, il faut leur dire de bouquiner aussi ?
Bah, bien sûr, ouais. Parce que, mais d'ailleurs, ça peut... ou alors, si vous avez envie de vous, de transmettre des choses directement, parce que vous en savez un rayon, très bien aussi. Mais en tout cas, il faut qu'ils se mettent au parfum avant d'aller, oui, c'est ça, parce qu'ils risquent de dire des choses qu'ils ont entendues de leur mère, de leur tante, de leur je sais pas quoi. C'est pas la peine d'aller créer des bévues, quoi.
Non, mais c'est surtout qu'aussi, ils peuvent se sentir mal à l'aise. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est, on est aussi dans une génération où c'était pas... Moi, je sais que, voilà, j'ai deux garçons. J'ai un grand qui me parle sans aucun souci des règles. Et il est, je pense, 10 fois plus au fait que son papa.
Mais là, pareil, il faut pas avoir peur de l'avouer. Le papa veut très bien dire à son fils, écoute, mais même apprends-moi des trucs en vrai, parce que moi, tu vois, j'y connais rien. Moi, on m'a jamais rien appris. Ça peut être rigolo. Moi, je pense qu'il faut avouer à ses enfants nos incapacités et nos limites. Et en l'occurrence, sur le sujet règles, c'est bien de dire qu'on ne sait pas plutôt que d'aller raconter des âneries, ça c'est sûr.
Ouais. Moi, je trouve que, encore une fois, je trouve que c'est hyper important ce que vous dites, qu'il faut se mettre à la page. C'est un petit peu comme refaire la mise à jour de son téléphone sur les règles, il faut le faire de manière récurrente.
C'est ça.
Moi, ce qui me gêne le plus, je trouve, c'est que c'est un petit peu comme quand on essaye d'aborder la sexualité, quand on essaye de faire passer le message à nos enfants, on véhicule beaucoup d'idées négatives. En sens où c'est toujours fait attention, etc. Pour les règles, je trouve que c'est aussi un peu le même genre de discours qui est toujours porteur de « Ah, tu vas avoir mal, ah, ça va être difficile, ah, tu vas perdre du sang, etc. » Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet, quelles phrases on peut avoir pour arrêter justement ce discours black et faire passer le message à nos gosses bah, « Tu sais quoi, ton cycle menstruel, bah, tu peux le kiffer. » Comment est-ce qu'on peut en parler comme ça?
Ah mais alors pour moi c'est une évidence, là encore faut changer de paradigme, mais un corps féminin qui a ses règles, c'est un corps en bonne santé. Le fait d'avoir un cycle, c'est un synonyme de bonne santé. Et oui, il y a un écoulement sanguin, mais cet écoulement sanguin ne gêne en rien la vie quotidienne. Oui, on peut avoir des fluctuations de l'humeur, mais là encore c'est une chance. Moi je dis souvent à mes patientes, les hommes ils ont des fluctuations hormonales qui sont beaucoup moins importantes que les nôtres. Donc, ils voient toujours les choses de la même façon. Toujours, toujours de la même façon. Une femme, pas du tout. Elle va voir une relation, par exemple, amicale, selon les périodes du cycle. Elle va les voir avec sous différents aspects. Mais c'est une chance inouïe. Et je pense qu'on a une vision qui nous est donnée grâce à ce cycle qui peut être vachement intéressante. Moi, les jours où je suis dark, eh ben, je vois des éléments que j'aurais pas vus parce que je me dis « Ah ouais, tu vois, j'avais pas vu cet élément négatif et pourtant qui est vachement intéressant de voir ». Donc moi je vois les choses de façon très positive, alors peut-être trop, sauf bien sûr si on est atteint d'une pathologie où là c'est pas drôle du tout, on a un SOPK, on a une endométriose, on a des ennuis comme ça, bah là évidemment j'aurais pas le même discours, mais un cycle d'une femme qui va bien c'est cool en vrai, oui c'est un peu fatigant, oui on n'est pas bien dans son corps etc. quelques jours, mais c'est pas, il faut juste adapter si c'est possible son emploi du temps en fonction. Moi je sais que par exemple je ne prends jamais de grosses décisions pendant mon syndrome prémenstruel.
D'accord.
Je sais qu'il y a des jours où je ne prendrai pas de décision, je dis écoutez je suis désolée, on verra plus tard, voilà.
On vit avec, on sait comment réagir, quoi.
Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, par exemple, sur 3 ou 4 mois, à noter en fonction des jours, juste pour faire une analyse sur 3 ou 4 mois, si on en a envie, voir un peu les jours où on est plus dark que d'autres. Et en fait, souvent, ça correspond. Elles me disent, ah, les femmes, elles disent, ah, bah oui, bah, complètement, c'est carrément indexé sur mon cycle.
Alors, vous pensez qu'on disait, hein, quand on a commencé ce podcast, que ça avance, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui, selon vous, est encore la prochaine étape pour que les mentalités puissent évoluer et que, justement, ce cycle menstruel soit le mieux vécu par toutes et tous ?
Eh ben, je pense qu'il faut continuer à informer. En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a un miroir grossissant où on s'imagine, avec nos réseaux, là, que en fait, tout le monde est super informé sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum et tout. En fait, il n'en est rien dans la population générale. Donc, je pense qu'il y a un gros travail informationnel de fourmi qu'il faut continuer de mener, mais dans la vraie vie, pas sur les réseaux. Mmh. Et ça, ça, c'est un travail de fourmi qui est amené par des professionnels de santé, par les journalistes, par nous tous, quoi, qui faisons de l'information médicale. Voilà. Mais je pense que ça, on n'est pas arrivé du tout, du tout, du tout. Donc, il faut continuer ce travail de fourmi.
Pourquoi est-ce que nos enfants ont le sentiment, à travers les réseaux sociaux, justement, qu'ils savent, même plus que nous, qu'ils savent énormément de choses, et que vous, vous avez le sentiment que non?
Eh bien, parce que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la réalité. Je trouve pas du tout. Moi, je suis toujours très étonnée quand on va sur les réseaux. On pense que tout le monde est super informé des règles, super informé de l'accouchement, super informé du postpartum. Ouais. Et après, j'arrive, moi, auprès des femmes. Bah, je me dis, bah merde. Bah, enfin, je veux dire, elles savent rien. Ou elles savent pas du tout assez. Enfin, je comprends pas. Donc, il y a quand même un décalage, il faut bien imaginer. Et les adolescents pensent savoir.
Mais oui.
Parce qu'ils ont entendu un micro-truc.
Ouais, parcellaire, c'est ça.
De quelqu'un. Un parcellaire, et puis deux, fait par quelqu'un qui, en fait, n'y connaît rien. Le problème, c'est ça, des réseaux, c'est qu'il y a des choses super et il y a des choses nullissimes, ouais. Beaucoup de choses nullissimes, malheureusement, avec des informations pas vérifiées. Donc, attention aux réseaux qui donnent aux gens le sentiment de tout connaître ou que tout le monde connaît tout. C'est totalement faux. Totalement faux.
Bon, donc, si on veut se remettre à la page, outre ce podcast, on peut lire votre livre et puis, comme vous le disiez, qu'on soit maman ou qu'on soit jeune fille, prendre rendez-vous avec des professionnels de santé, avec une sage-femme, par exemple, pour poser des questions.
Oui, oui. Et puis, il y a mon livre, mais il n'y a pas que le mien. Il n'y a pas que le mien, d'abord. Et puis même, il y a des comptes Instagram qui sont super bien tenus.
Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir répondu à nos questions sur les règles, savoir où est-ce qu'on se situait un petit peu en 2023.
Avec plaisir, merci beaucoup à vous.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Tous les premiers samedis du mois, vous n'oubliez pas, c'est le nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisise. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.